RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec les neveux de René, Chemin de pensée, une émission consacrée à l'étude des textes classiques de la philosophie. Et en cette période de présidentielle de l'entre-deux-tours, il nous a paru bon de revenir aux fondamentaux avec Platon. Et nous vous proposons d'aborder un texte, un dialogue de Platon qui s'appelle le Criton. Alors, le Criton est un des trois dialogues qui est inscrit dans une espèce de trilogie. Le premier volet de cette trilogie, c'est l'Apologie de Socrate.
Oui.
Criton est le deuxième dialogue. Et le troisième, c'est le Phédon. Mm-hmm. Oui, tu voulais...
Oui, non, effectivement, c'est tout à fait ça. Donc, pour replacer un petit peu hein, dans le contexte, donc, dans l'Apologie de Socrate, on voit en fait le procès de Socrate avec sa défense. Et le problème, c'est qu'à la fin, il est condamné.
Donc, voilà. Alors, j'ai oublié de présenter les personnes qui sont autour de la table. Donc, moi, je suis Nazim Fattès. On est avec Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier. Et il nous manque Nicolas Lemoine, le maître des résumés, mais qui sera là la semaine prochaine, on l'espère. Voilà. Alors, je vous propose que l'on commence à se plonger dans cette œuvre, le Criton, et on va entendre donc Anne et Sylvain qui lisent le début de ce dialogue.
Quel motif te fait venir ici à pareille heure, Criton ? N'est-il pas encore très grand matin ?
En effet.
À quelle heure au juste ?
Le jour se lève à peine.
Je m'étonne que le gardien de la prison ait consenti à te laisser entrer.
Oh, nous nous connaissons bien, lui et moi, Socrate, depuis que je fréquente ici. Et puis, il a reçu de moi quelques gratifications.
Viens-tu seulement d'arriver ? Ou bien serais-tu ici depuis longtemps ?
Depuis quelque temps, déjà.
Comment ne m'as-tu pas réveillé tout d'abord ? Pourquoi es-tu ainsi resté sans rien dire ?
Par Zeus, Socrate, c'est que je n'aurais pas voulu, à ta place, avoir à subir une longue veille et si pénible. Il y a longtemps, vraiment, que ton paisible sommeil m'étonne. Et c'est bien exprès que je ne te réveillais pas, pour te laisser goûter le meilleur repos. Au reste, bien souvent, dans toute ta vie passée, j'ai pu admirer ton égalité d'humeur. Jamais autant toutefois que dans le malheur présent, en voyant avec quel calme, quelle douceur tu le supportes.
Il serait bien ridicule à mon âge, Criton, de me fâcher parce que je dois mourir.
Oh, mon cher Socrate, combien d'autres aussi âgés que toi, soumis à pareille épreuve, se révoltent contre leur sort, sans que l'âge y fasse rien.
Ah, cela est vrai. Mais, encore une fois, pourquoi es-tu venu si tôt ?
Pour t'apporter une nouvelle douloureuse et accablante. Oh, non pas pour toi, je le vois bien, mais pour moi et pour tes amis. Oui, douloureuse et accablante. Il n'en est pas pour moi qui puisse l'être davantage.
Quelle nouvelle ? M'annonces-tu le retour du navire, revenant de Délos, à l'arrivée duquel je dois mourir ?
Merci. Donc, ce dialogue nous plonge dans la prison où se trouve Socrate suite à son procès. Tu veux rappeler peut-être le contexte du procès qui est décrit dans l'Apologie de Socrate, Sylvain ?
Donc, dans l'Apologie, il est reproché à Socrate, hein, il est mis en accusation de pervertir la jeunesse et d'introduire des faux dieux, en fait. Hein, donc voilà, il est accusé de ces choses-là qui sont évidemment à l'époque des crimes importants. Et donc, il y a tout un procès qui se fait, donc qui est relaté dans l'Apologie, où en fait, c'est la défense même de Socrate, c'est lui-même qui parle pour se défendre. Et malheureusement, à la fin, il est condamné.
Alors, on rappelle aussi aux auditeurs hein, que nos premières émissions ont été consacrées à l'étude de ce texte, qui est l'Apologie de Socrate. Et donc, là, il est en prison, il attend son jugement être mis à mort. Et lorsque le bateau qui revient de Délos doit revenir...
La peine pourra être exécutée.
Voilà, la peine sera exécutée. Alors, il faut savoir que Délos, c'est une île qui est dans les Cyclades, donc en Grèce, et c'est une île sacrée. Et en fait, si je me souviens bien, les différentes cités envoyaient ce qu'on appelle des théories. C'est rigolo, hein. Et donc des délégations qui allaient. Et pendant tout ce temps qui est un temps sacré, aucune mise à mort, aucune souillure ne pouvait avoir lieu dans la cité. Voilà. Voilà. Alors, peut-être on peut faire quelques brefs commentaires. Qu'est-ce que vous inspire ce début où on voit Socrate finalement serein?
Oui, c'est ça. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que, bon, bah, il sait très bien qu'il va être mis à mort. Et en fait, il n'a pas l'air trop paniqué, quoi.
Anne, tu
veux... exactement. C'est sa sérénité qui nous frappe. C'est Criton qui est inquiet, mais Socrate, lui, voilà, est parfaitement serein. Donc reste à savoir pourquoi.
Pourquoi
Socrate est-il si serein?
Je vais juste faire une parenthèse. La pièce du Criton a été représentée cette année à Nancy par la Compagnie des Amis de Platon, qui est une compagnie qui passe dans de nombreuses villes, enfin, dans la région parisienne, mais aussi en province, hein, partout. Donc c'est intéressant peut-être pour les auditeurs de suivre cette compagnie et de voir à quel moment ils reviendront à Nancy, à Metz, à Besançon, ouais, enfin selon l'endroit où se trouvent les auditeurs. Voilà. Oui. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut continuer cette lecture du Criton? Pourquoi, disait Anne, pourquoi est-il si serein? Qu'est-ce qui explique la sérénité de Socrate?
Donc, on va le voir à partir des critiques que lui fait Criton. Criton lui dit, mais écoute, c'est très facile, tu peux t'enfuir, on a de l'argent, il y a d'autres villes qui sont prêtes à t'accepter, donc tu n'as vraiment aucune raison de rester là, puisque à la fois c'est facile, et puis en même temps, bah, tu vas soulager tes amis, tu vas soulager ta famille, tu vas pouvoir retrouver tes fils qui pourront être éduqués par toi, donc il n'y a absolument aucune raison pour que tu ne t'enfuis pas.
Je vais même forcer le trait, c'est pas qu'il n'y a aucune raison pour que tu t'enfuis pas.
Mais il y a toutes les raisons pour que tu t'enfuis.
C'est que tu dois t'enfuir, c'est-à-dire, voilà. Il lui dit, Socrate, ton devoir envers nous, tes amis, et envers ta famille, te commande de sortir. C'est même pas pour ton propre intérêt, parce qu'il sait très bien que Socrate ne fera pas les choses pour son intérêt, mais Criton, qui est son ami, lui dit « J'ai tout fait pour que tu puisses sortir, et tu dois le faire, parce que sinon la honte retombera sur nous, tes amis, parce qu'on dira qu'on n'a pas voulu te sauver, qu'on n'a pas voulu dépenser notre argent, et ainsi de suite, et en plus, tu ne pourras pas t'occuper de tes parents, au sens large, de ta famille. »
Là, à ce moment-là, Criton fait intervenir l'opinion du grand nombre, puisqu'il lui dit « Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?»
Eh oui.
On va dire qu'on est des mauvaises personnes puisqu'on n'a pas aidé notre ami, on a préféré notre argent plutôt que d'aider notre ami, donc on est des gens qui seront très mal jugés.
C'est ça, par rapport au fait qu'on avait la possibilité de le sauver, en fait.
Voilà.
Alors, tu veux lire le passage où il est question de ce grand nombre, et on peut dire peut-être, pour attirer l'attention des auditeurs sur ce qui va être lu, que c'est un passage, généralement, quand on le lit, qui choque un peu le lecteur. Mais on va laisser Anne d'abord dire, et puis on va voir pourquoi est-ce que ça peut choquer le lecteur du 21e siècle.
Mais divin Socrate, une dernière fois, suis mon conseil et assure ton salut. Car vois-tu, si tu meurs, plusieurs malheurs s'abattront sur moi. Non seulement je serai privé d'un ami tel que jamais je n'en trouverai de pareil, mais de plus, beaucoup de gens qui nous connaissent mal, toi et moi, estimeront que j'aurais pu te sauver si j'avais consenti à payer ce qu'il fallait et que j'ai négligé de le faire. Est-il pourtant rien de plus honteux que d'avoir la réputation de paraître attacher plus d'importance à l'argent qu'à ses amis? Les gens ne croiront jamais, en effet, que c'est toi qui as refusé de t'échapper d'ici alors que nous le désirions ardemment.
Mais vraiment, mon excellent Criton, l'opinion du grand nombre a-t-elle pour nous tant de valeur? Les meilleurs sont de ceux dont le jugement nous importe. Ne douterons pas que les choses ne se soient passées comme elles se seront passées réellement.
Mais Socrate, tu ne vois que trop bien qu'il faut se soucier de l'opinion des gens. La situation dans laquelle tu te trouves présentement montre assez que les gens sont capables de faire du mal, non pas le moindre, mais le pire en fait, quand auprès d'eux on a été calomnié.
Plutôt Dieu, Criton, que ces gens-là fussent capables de faire beaucoup de mal, afin qu'ils ne le fussent aussi de faire beaucoup de bien. Ce serait parfait. Au lieu de cela, ils ne peuvent ni l'un ni l'autre, incapables de rendre un homme ni sensé ni insensé. Ils font ce que veut le hasard.
Bon, merci, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses.
Beaucoup de choses à dire. Alors, premier point. Généralement, quand on lit ce texte, ça déclenche des grands cris, c'est de dire l'opinion du grand nombre a-t-elle pour nous grande valeur ? Voilà. Donc là, on est au cœur de la pensée platonicienne. Il y a cette phrase qui dénigre le jugement du grand nombre. Alors, qu'en pensez-vous ?
Ben ça, il faut se remettre, déjà, on en a parlé avec le Gorgias, il faut s'en remettre donc à ce que pense Socrate. Socrate pense qu'il y a des experts, par exemple, en matière de santé, c'est le médecin qui est l'expert, il faut se soucier de son opinion. Pour ce qui est du corps, c'est l'expert en gymnastique.
Non seulement il faut se soucier de son opinion,
mais il ne faut prendre en compte qu'elle-même.
On écoute les conseils de santé du tout venant, ça risque de mal se passer. Voilà. Et donc, il faut écouter que le médecin.
En matière de morale, c'est la même chose. Il y a l'opinion, une opinion, c'est celle de l'expert et c'est celle qu'il faut écouter.
Alors, ça fait grincer des dents parce qu'on vit dans un pays démocratique où normalement, ceux qui décident des lois, c'est le peuple qui s'exprime, on vote. Et puis s'il y a une voix de plus pour un camp A, c'est le camp A qui va emporter et faire appliquer sa loi ou son programme. Et s'il y a une voix de plus pour le camp B, c'est le camp B qui l'emporte et qui fait appliquer son programme politique. Alors, généralement, cette idée-là de dénigrer, finalement, le grand nombre, elle choque.
Oui, alors, déjà, on peut peut-être dire que la notion de démocratie, elle est assez différente. Enfin, elle a quand même évolué depuis la Grèce antique par rapport à notre civilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, enfin, c'est ce qui se passe, à essayer d'inclure toute la population pour donner son avis sur justement, la façon de diriger le pays, on va dire, ou la communauté. Alors que même au moment de la Grèce antique, ce qui était compris dans le peuple, c'était pas tout le monde. C'était qu'une partie, c'était les citoyens de la cité. Et tout le monde n'était pas citoyen de la cité.
Effectivement.
Donc il y a quand même une petite distinction à faire déjà là, parce que au final, l'idée qu'on a de la démocratie dans l'Antiquité, elle n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a aujourd'hui.
Effectivement, alors il y a déjà l'idée que ce n'était pas tout le monde, déjà. Et en plus, autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les cités en question sont de petite taille.
Oui, en plus, oui.
En plus, il ne s'agit pas de faire voter 60 millions de personnes.
Et j'avais aussi envie de dire quelque chose, parce que là, on a glissé sur le plan vraiment politique, et ce que dit Criton, il dit qu'il se soucie de l'opinion des gens au point de vue moral. Et donc là, on répond sur un plan également politique. Et ça, c'est bon. Et quelque part, on a le droit de le faire en lisant les textes de Platon, parce qu'il faut savoir que pour Platon, la morale, la politique sont intimement liées. Oui. Tout ça, ça tient à l'âme. On est en train de parler de l'âme, et le soin de l'âme, c'est à la fois la justice. Donc, on va beaucoup parler parce que là, on est sur le plan de la justice.
C'est ça.
Et c'est à la fois la politique.
C'est ça. Alors, juste, je vais revenir à la dernière phrase du dialogue qui a été lue. Par rapport à ce que tu as dit, Anne, qui me paraît intéressant, lorsque Criton dit « Ah, bah Socrate, toute ta vie, tu nous as dit il fallait pas se soucier du grand nombre, là, t'es bien attrapé. Hein, tu vois qu'il fallait bien s'en soucier. » Que dit Socrate ? Peut-être tu peux relire, il dit quoi ?
Plutôt Dieu, Criton, que ces gens-là fussent capables de faire beaucoup de mal, afin qu'ils le fussent aussi de faire beaucoup de bien. Ce serait parfait. Au lieu de cela, ils ne peuvent ni l'un ni l'autre, incapables de rendre un homme ni sensé ni insensé. Ils font ce que veut le hasard.
Voilà. Ouais. Le hasard, c'est-à-dire que finalement, ce que je comprends moi de ce passage-là, c'est que chez Platon, si on n'est pas en rapport avec l'idée, justement l'idée de bien, cette âme qui accède à l'idée, ben finalement, c'est juste des rapports de force.
C'est ça, ouais.
Je mise sur un candidat. Bon, voilà.
Puis on voit ce qui se passe.
Ce candidat, s'il réussit à s'en sortir, tant mieux. Non, bon, on lui a trouvé des affaires, ça fait baisser son score. Bon, il a perdu, j'ai perdu ma mise. Voilà. Et c'est ça dont Platon ne veut pas. Il ne veut pas de choses qui soient soumises aux aléas, au hasard. Et donc, ce que je comprends du mouvement platonicien en lisant le Criton, c'est comment allons-nous faire pour sortir des rapports de force qui, eux, ne sont soumis.
Oui, et puis sur le choix, effectivement, des dirigeants, parce que pour le coup, quand il dit incapable de rendre un homme ni sensé ni insensé, là, il fait vraiment allusion au soin de l'âme. Et en fait, c'est quand même tout le centre de la problématique chez Platon. Hein.
Oui.
C'est ça. Et le problème, c'est évidemment d'avoir quelqu'un qui soit une personne qui soit à même de pouvoir prendre en compte ces aspects-là.
Oui, il ne peut pas lui prendre ce qu'il a de plus précieux au monde, qui est son âme.
Donc, je propose une petite pause musicale avec Eric Satie et ensuite on reprendra pour voir la suite de ce dialogue.
Radio des Régions, RCF.
Donc vous êtes bien sur Les Neveux de René, Chemin de Pensée sur RCF. On va reprendre la discussion autour du Criton. Et la question qu'on se posait, c'était celle du grand nombre. Hein. On peut prendre l'exemple de l'élection aux États-Unis, hein, qui fait aboutir quelqu'un qui est manifestement, n'ayons pas peur des mots, un voyou, brutal, borné, où c'est la puissance du fric.
On va dire qu'il y a une position extrême.
Voilà. Et voilà, est-ce que ça traduit pas finalement les risques que Platon nous met devant les yeux? Alors souvent on dit « Ah bah Platon n'est pas démocrate, il n'a pas la démocratie », mais est-ce que justement quand on voit le type d'homme qu'on peut placer à la tête d'une démocratie, est-ce que ça ne donne pas tout raison à Platon?
Ben, un petit peu quand même, effectivement. Là, on se dit, ben, en fait, le problème, c'est là, pour le coup, on rejoint aussi le Gorgias. Hein. Mm-hmm. C'est aussi le pouvoir de persuasion, le pouvoir
de la manipulation.
De la communication et de la manipulation. Le problème, c'est que si on a, bien sûr, on s'adresse, on demande aux gens, à tout le monde, donc toute la communauté, de voter, de choisir. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas tous les éléments en main, et on ne peut pas tous les avoir, parce que ça demanderait un temps énorme d'investissement pour arriver à essayer de comprendre tous les enjeux complètement, je veux dire. C'est-à-dire presque devenir soi-même un expert pour arriver à faire le choix le meilleur. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, quelque part, c'est pour ça aussi que le débat politique, souvent, se résume à des batailles de communication.
C'est ça. C'est aussi des choses qu'on avait notées dans la chute hein, de Camus, ces batailles de communication. On avait noté le fait que le communiqué remplace le dialogue.
Voilà. Mm. Et du coup, on arrive à ce genre de choses, quoi.
Oui, Anne, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, donc il y a aussi un danger qui est finalement, si les foules votent mal, est-ce qu'il faut dire que ce n'est pas aux foules de voter ? Donc ça, c'est un danger. Donc c'est évidemment pas la solution.
Non.
Et donc la solution est où ? Bon, pour être dans une meilleure éducation. Mais on pourrait croire que a priori, c'est ça, c'est bien ça qui choque, parce qu'on pourrait croire a priori que normalement, les Américains, par exemple, ont été éduqués et pourtant ils n'ont pas su voir le danger. Donc voilà, il faut se dire bon, quelle éducation finalement, c'est pas si simple que ça. Mmh. Et puis il faut aussi voir que parfois, si on s'en prend aux foules, si on dit qu'elles ont mal voté, c'est aussi parce qu'il y avait des crises. Et c'est aussi parce qu'elles étaient en désespoir. Donc,
bien
il faudrait peut-être
clair,
aussi s'attaquer à ce désespoir. C'est aussi un peu facile que de dire que les gens votent mal si on n'essaie pas de savoir pourquoi ils votent mal.
Alors, et peut-être attention, hein, je rectifie, voilà. J'ai pas dit qu'ils votaient mal. Hein.
Ça, non, c'est pas par rapport à toi. Hein.
mais effectivement, le problème, c'est que au moment du choix, juste pour revenir là-dessus, au moment du choix, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours tous les éléments non plus. Enfin, c'est compliqué, en fait.
L'histoire de vote mal, on le voit avec la question du Front National. Souvent, les gens qui veulent contrer le Front National ont ce sentiment, exprimé ou pas, que les gens votent mal.
Oui.
Voilà. Donc, mais effectivement, il faudrait plutôt voir pourquoi...
Pourquoi les gens votaient comme ça.
Oui, bien sûr. Ce serait intéressant. Et moi, j'aimerais bien savoir que dirait Platon, en fait, de cette chose-là. Est-ce que la lecture du Criton peut nous aider à y voir clair dans une situation aussi confuse que celle où on se trouve? Voilà, voilà, c'est ça. Parce que si, finalement, les idées d'âme, les idées de justice, les idées de bien, elles ne sont jamais évoquées dans le débat politique actuel. Elles sont totalement absentes. Non. Donc, comment faire entendre la voix platonicienne? J'ai des doutes.
Et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas forcément un signe d'espoir, c'est que finalement, Socrate meurt. Donc, est-ce que Socrate meurt, ce n'est pas le constat d'un échec?
Ouais, non, c'est compliqué. Hein,
Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on lit Platon, on a un constat d'échec, finalement, quelque part. Le fait que Socrate ait été condamné à mort, c'est un constat d'échec. Mais Platon rêve encore à fonder une cité idéale.
On peut quand même le voir autrement. On peut le voir justement par le fait qu'il va jusqu'au bout de sa logique et de sa position, au contraire. C'est-à-dire que s'il ne meurt pas, quelque part, il échappe à ce que lui-même prône.
C'est un échec,
Donc, quelque part, c'est presque, comment dire, une obligation, d'une certaine façon, qu'il meure. Puisque, justement, on va le voir un peu plus loin dans le Criton. Mais, globalement, il dit bien, ce qui est important, c'est de respecter la décision globale. C'est-à-dire de respecter, finalement, les lois.
Oui, mais en même temps, toute la vie de Socrate, ça a été d'essayer d'aller convaincre les gens, d'aller les convaincre par la dialectique, donc d'aller les trouver dans la rue, de leur parler.
Et mais ça, du coup, c'est de faire changer l'opinion. Et alors, ce qui est intéressant, pour le coup, on peut venir justement sur le principe, un des principes importants de Socrate qui est donné dans le Criton, un peu plus loin, hein, dans le texte, où il parle justement de cette possibilité de s'échapper ou pas. Donc il propose à Criton de discuter sur ce problème-là, quoi. Donc, c'est une obligation pour nous d'examiner si vraiment nous devons agir ainsi, oui ou non. J'ai un principe, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui fut le mien de tout temps. C'est de ne me laisser persuader par rien que par une raison unique, celle qui est reconnue la meilleure à l'examen. Donc on voit bien que...
C'est ça, c'est la démarche socratique, c'est l'examen.
Exactement.
Scopeille, voyons. Regardons, c'est ce qu'il ne cesse de dire. Et c'est le fait de regarder qui doit détruire l'opinion, la doxa. C'est le fait de regarder clair dans ce qui est, qui est. Et donc, Platon n'est pas en quelque sorte un rêveur, comme on pourrait le dire. C'est quelqu'un qui dit « il n'y a d'être des choses, il n'y a d'être de la politique ». Que dans la mesure où on prend le temps d'examiner en détail, honnêtement, chaque chose. Et c'est ce mouvement-là auquel nous incite.
Contrairement à ce qu'on peut parfois voir en politique actuelle, c'est qu'il ne change pas d'avis. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a examiné quelque chose avec des arguments qui sont arrivés à une conclusion, il ne remet pas en question. Il dit « les arguments que je faisais valoir jusqu'ici, je ne peux les rejeter maintenant parce qu'il m'est arrivé du nouveau ». Donc on voit bien qu'une fois qu'il a statué sur quelque chose, qu'il a examiné un problème et qu'il est arrivé à une conclusion, il ne va pas remettre ça en cause en fonction de ce qui lui arrive personnellement.
C'est ça. Anne, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter quelque chose parce qu'on a parlé justement du rejet de l'opinion du grand nombre et on a dit que l'opinion qui comptait, c'était celle de l'expert. En matière médicale, c'est celle du médecin. Et donc là, quel est l'expert en matière de morale ?
Voilà,
parce qu'en fait, il ne le dit pas.
Il ne le dit pas.
Mais
ça pose la question de savoir, à qui je dois m'adresser si j'ai... Qu'est-ce qu'on pourrait répondre ?
J'aurais tendance à penser là que quand il parle de ça, et notamment par rapport à l'aspect politique et aussi donc du coup qui englobe les lois, d'une certaine façon, on peut se dire que Platon, il pense quand même aux philosophes, quoi, sans le nommer. Alors pas pour tout, parce qu'il donne des exemples concrets sur la gymnastique, bien sûr, avec le gymnaste, hein, qui va être le plus à même de donner un avis intéressant pour la personne, le médecin, tu le disais tout à l'heure. Anne, par rapport à ce qui va être sur les décisions pour la communauté, là, pour le coup, on a tendance à sentir quand même en dessous qu'il défend le philosophe.
Oui, alors c'est pas facile, parce qu'on n'a pas toujours un philosophe sous la main.
Et voilà.
Oui, Anne.
Oui, alors je voulais dire, évidemment, il est fort possible qu'il pense au philosophe, mais en même temps, il est peut-être un peu pris à son propre piège, puisqu'il avait dit que lui ne savait rien. Donc, il est difficile de dire ensuite, c'est moi l'expert de morale, alors que moi, je sais que je ne sais rien. Et il y a aussi une piste quand même qui est très forte dans ce livre, c'est de nous dire que c'est les lois. C'est les lois l'expert, voilà, finalement. Voilà.
Il s'en remet aux lois.
Oui. Il s'en remet aux lois. Mmh. Alors, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Je dois faire une décision morale importante, statuer. Mais en même temps, les lois ne vont pas dire comment créer de nouvelles lois aussi. Mmh. Les lois, c'est un peu difficile. Et puis, Sylvain, quand tu dis le philosophe, il y a quand même une ambiguïté, parce que philosophe, on entend que c'est un statut. On entend aujourd'hui comme si ça va être le diplômé de philosophie qui va nous donner réponses.
Non,
et puis d'ailleurs, tu vois, j'ai lu un article, une interview de Raphaël Antoven, où il dit qu'il est dans les médias, par exemple, le philosophe de service. Mmh. Puis c'est vrai, bon, il y a une grande catastrophe quelque part, alors on implique un grand tremblement de terre, on invite le spécialiste en géopolitique, le spécialiste en géologie, le spécialiste en philosophie, tu vois. Or, ça peut pas fonctionner comme ça.
Mais Nazim, ça va peut-être être un philosophe qui va accéder à la présidence de la République.
Ah bon?
Je sais pas.
Je ne sais pas si c'est possible. Philosophe de formation ne signifie pas philosophe. Or, j'ai l'impression que un vrai philosophe, chez Platon, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme de philosophie. Tu vois,
c'est pas un statut.
Non, je veux juste lever l'ambiguïté pour les auditeurs qui pourraient faire croire que un philosophe c'est un diplômé parmi d'autres.
Non, quelqu'un qui vit de la philosophie, vit par la philosophie même.
Et donc c'est chacun d'entre nous. Ça. Parce que faire ce travail de remise en cause, ce travail d'examen. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Et puis on y reviendra peut-être plus tard dans les prochaines émissions. C'est donc pour ça que chacun doit éduquer son âme, la psyché. C'est à chacun d'entre nous de le faire. Et faire de la politique, donc on a dit, c'est vraiment ce travail d'éducation de l'âme.
Ouais.
Et nous dit Patočka dans ce livre qui s'appelle Platon et l'Europe, en page 292, en disant que éduquer son âme, ce n'est pas de l'intellectualisme, il nous dit, que tout cela ne représente pas un intellectualisme, cela ressort du fait que ce dont il y va n'est pas un simple savoir, mais l'être même de notre psyché, l'être même de notre âme. C'est ça.
Il faut suivre la démarche philosophique pour...
Et ce n'est pas un savoir. La philosophie, c'est pas quelque chose que je peux apprendre dans les livres avec leçon 1, leçon 2, leçon 3.
C'est quelque chose qui se vit, en fait.
Qui se vit au quotidien. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue chez Platon. Oui.
Peut-être la réflexivité dont parlait Hannah Arendt.
Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par réflexivité?
Mais c'est le dialogue quelque part aussi avec soi-même.
Voilà. Donc toujours garder cette voix vivante envers soi-même. Et puis donc on va voir comment cette vie de l'âme est mise en scène par Platon dans la suite du dialogue qui s'appelle Le Criton. Donc on invite nos auditeurs à se procurer ce dialogue, peut-être dans la traduction Garnier Flammarion ou dans la traduction qui est parue dans les éditions Les Belles Lettres, de préférence en bilingue, puisqu'il y a des choses. On va laisser une semaine de pause avant de reprendre sur Le Criton. Donc on propose à nos auditeurs d'écouter la suite de la conférence de Daniel Moise sur le nihilisme et le terrorisme, qui est aussi une question éminemment politique. Et puis, donc rendez-vous la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, pour la suite du dialogue autour du Criton. Merci et à la fois prochaine.